Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Louis.
Jusqu'à présent, j'avais été confrontée seulement à la douleur, non pas au deuil. La douleur était passive, la douleur survenait. Le deuil, l'acte de faire face à la douleur, demandait de l'attention. C'est ce qu'écrit l'écrivaine américaine Joan Didion dans L'année de la pensée magique. Son mari, l'écrivain John Gregory Dunn, est mort et elle doit s'occuper de leur fille. Mais le deuil, c'est ça, de l'attention requise, pour soi, pour le mort, pour les souvenirs et la douleur. Comment avoir encore de l'attention pour un autre, pour son enfant? Et quand l'enfant doit aussi vivre son deuil, comment soutenir celui de sa mère? Un deuil peut-il être autre chose qu'une solitude nouvelle? Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire de deuil, l'histoire d'Emeline et de Diane, au micro de Marjolaine Roget. Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passage.
C'est vraiment ma moitié que j'ai perdue et c'est extrêmement douloureux. Je me sens amputée. Et malgré cet état-là de handicap, il faut quand même faire comme si on était entier et comme si on n'était pas souffrant.
Et moi, enfant, je n'ai pas forcément la légitimité d'exprimer quelque chose qui rajouterait un peu à tout ce drame qui se joue à ce moment-là.
On s'est connus jeunes avec mon mari et donc on s'est fiancés à l'âge de 19 ans, on s'est mariés à l'âge de 20 ans, de façon un peu précipitée parce qu'on voulait vivre ensemble et avoir un appartement ensemble. Et donc on était très liés, très proches. Alors donc il a été malade pendant des années, pendant plusieurs années. Donc c'était une maladie intestinale. Quand on découvre cette maladie grave, mon mari a 40 ans ou 39 ans et Emeline a 2 ans. Elle est très volontaire, très déterminée, elle a une forte personnalité, elle aime jouer, elle aime chanter, elle est pleine de vie. Et malheureusement, les choses empirent.
Je vois certainement que bon, ça va pas. De toute façon, si un parent est allongé en pleine journée, on se rend compte que quelque chose ne va pas.
Je lui dis que son papa est malade, très malade, qu'il faut pas trop le déranger sans doute, et que il souffre. Elle voit qu'il souffre. Il est souvent allongé. J'ai acheté un deuxième canapé dans le salon pour qu'il puisse s'allonger avec nous dans le salon et Elle peut aller chercher ses poupées, ses nounours, et puis elle s'installe dans un fauteuil ou sur l'autre canapé, et puis son papa est allongé confortablement pendant qu'elle joue à côté de lui. Donc, c'est pas une situation normale et elle comprend les choses. Pendant les derniers mois, je vois que sa vie est de plus en plus difficile et c'est vrai qu'à un moment donné, je comprends que pour lui, il n'y a plus d'issue. La seule issue, ce serait de partir. C'est très douloureux. Une fois quand même, je lui dis, bon, je comprends que si tu ne peux pas faire autrement, tu vas devoir partir. Et je l'accepte. Et il m'a beaucoup remercié de le lui avoir dit parce que pour lui, ça a été un soulagement. Je lui donnais en quelque sorte l'autorisation de partir. Et c'est vrai que lui-même voulait vivre à tout prix. Il avait 44 ans, il voulait vivre, mais pour lui, c'était un soulagement de savoir que j'accepterais qu'il s'en aille. J'avais dit aux enfants, je leur avais dit quand même, papa va très mal, c'est possible qu'il n'arrive pas à s'en remettre, mais c'est tout ce que je leur avais dit. Et bon, je ne sais pas si eux se sont préparés au deuil, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que c'est quand même l'inacceptable.
Je ne pense pas que je me sois posé la question sur le fait que ça puisse coûter la vie ou pas, parce que pour moi, c'est presque la normalité. C'est banal, enfin, c'est la vie quotidienne. Donc à partir de là, je ne me demande pas si ça va durer longtemps ou pas. Je ne pense même pas qu'ils puissent partir en fait.
Les choses ont changé tout début janvier 2001. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a été transporté à l'hôpital en ambulance. Comme il était très agité, je me suis décidée cette fois-là à passer la nuit avec lui. Et au matin, il restait donc toujours en sommeil. Et au bout d'un moment, assez longtemps, on est venu me dire « il est dans un coma léger ». Et je crois qu'on m'a dit, c'est la fin. Progressivement, ben, son combat a augmenté. C'est là que j'ai appelé ma belle-mère. J'ai appelé mes enfants en leur disant qu'il fallait qu'ils viennent le plus vite possible. L'aîné avait 21 ans à ce moment-là. David a 16 ans et Emeline a 6 ans. Donc, je lui tenais la main et on m'a dit, bon, ça y est, son cœur s'est arrêté.
Je descends les escaliers avec un cousin qui m'avait amené à l'hôpital ce jour-là et avec un magazine pour enfants dans les mains. Et je me revois descendre ces escaliers et j'en savais rien et c'était pas... Vraiment, je venais pour une visite, comme d'habitude.
Quand mes enfants sont arrivés à l'hôpital, déjà, je regrettais qu'ils soient arrivés trop tard, puisque je pensais que pour eux, ça serait important, même s'il était dans le coma, d'arriver pendant qu'il était encore en vie. Il est décédé vers 16 heures, je crois qu'ils sont arrivés vers 16 heures. Elle n'a pas exprimé grand-chose, Emeline. Je ne me souviens pas qu'elle ait exprimé grand-chose. Je pense qu'ils étaient un peu abasourdis, un peu assommés.
Ben, je vois beaucoup de tristesse, je vois un peu un effondrement, un peu quelque chose comme ça.
Je sais qu'il faut que j'assume, comme il a toujours fallu que j'assume, j'assume. Et c'est même peut-être ce qui me coupe un peu de mon ressenti, c'est qu'il faut que j'assume, quoi qu'il arrive, il faut que je porte, il faut que je guide le navire, il faut que je fasse face à tout, il faut que j'organise maintenant les événements qui vont arriver. Mais le lendemain, quand il s'agit vraiment de commencer à préparer l'enterrement, là, je sens que je m'effondre. Et j'ai les enfants qui sont collés à moi, qui ne me lâchent pas d'une seconde, qui me suivent dans chaque pièce, on va dire. Surtout les deux derniers, probablement, hein, David et Emeline. Et là, pour moi, dans la difficulté où je me trouve, c'est difficile d'avoir en plus ces enfants accrochés à moi. Le fait que les enfants soient si proches de moi et si présents en permanence, ça m'étouffe un peu parce que je suis plus libre de mes mouvements. Je veux aller d'une pièce à l'autre pour attraper quelque chose. Il faut éditer des faire-part. Il faut trouver un temple assez grand et le nôtre est trop petit. Et donc, j'ai besoin d'avoir une aisance de mouvement qu'il m'empêche d'avoir. Et donc, je leur dis, mais lâchez-moi un peu parce que je ne vais pas y arriver. Je ne veux pas du tout les rejeter, mais il faut que j'arrive quand même à surnager pendant quelques jours pour arriver au bout de cette échéance de l'enterrement. C'est difficile de rester là, de rester présent avec les impératifs du quotidien quand tout a perdu son sens.
Je comprends très bien qu'il n'est plus là. Je comprends très bien que c'est quand même un chamboulement, tout est un peu ébranlé. Je vois mes proches pleurer, je vois ma mère bouleversée. Donc ça, je le comprends bien. Mais la mort a quelque chose de pas définitif à ce moment-là. Je perçois à la fois l'absence et à la fois la présence, d'une certaine façon. L'absence physique, parce que mon père n'est plus là et qu'il est décédé, qu'il y a un enterrement, que toute la famille est là, etc. Et en même temps, c'est pas une absence brutale et définitive. Il y a quelque chose qui va au-delà de simplement le fait de mourir, d'être enterré. C'est pour moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est trop terre à terre.
Quand elle me voit, par exemple, pleurer dans la voiture, quand on prend la voiture pour aller quelque part, Emeline me dit « Mais maman, ne pleure pas, peut-être que papa est avec nous dans la voiture. » Parce que je lui ai expliqué que son papa était parti, mais qu'il n'était pas mort, qu'il vivait ailleurs. C'est vraiment ma croyance et mon ressenti et tout ce que j'ai toujours perçu des décès de mes proches. Un mois après, je prends ce rendez-vous pour les enfants parce que je sais qu'on l'a remis à plus tard et que maintenant, il faut le faire. Et c'est là qu'on apprend. Bon, pour mon fils aîné, on savait qu'il avait cette maladie, mais à un degré moindre. Et pour mon second fils, que je ne pensais pas du tout atteint par ce gène malade, on apprend qu'il est gravement atteint. Plus gravement que son père encore. Voilà. Donc là, ça a été quand même difficile. Ça a été un très sale moment aussi. Parce que je sortais à peine du circuit hospitalier pendant 4 ans qui avait été terriblement pénible. Je me suis sentie écoulée au fond. Bon, ça n'a pas duré plus d'un jour ou deux, mais ça a été très dur à accepter pour moi. Quand on a les résultats des examens, j'annonce à Emeline, et je me souviens, c'était dans son bain. Donc, elle a 6 ans. Je lui annonce que Quentin et David ont aussi la maladie de leur père. Et que c'est grave, elle le sait, puisque ça s'est terminé, comme ça s'est terminé. Et donc, Emeline, dans son bain, me dit « Mais maman, mais alors peut-être que moi aussi, je suis malade, j'ai la maladie, et alors on va tous mourir, et qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas rester toute seule. » Elle pensait d'abord à moi qui allais rester toute seule.
Il y a quand même beaucoup de tristesse, de manière générale, dans la maison. Et je me rends très bien compte que ça ne va pas.
Elle n'exprime pas sa peine. Peut-être qu'elle ne sait pas la formuler, peut-être qu'elle ne l'analyse pas, elle n'est pas capable de mettre des mots dessus.
Je pense que je surprends peut-être les gens avec ça, parce que je n'exprime pas beaucoup de tristesse, justement. J'en parlais peut-être pas de moi-même, mais j'en parle facilement si on me demande quelque chose. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui me pose problème.
De son père, bien sûr, on en parle. C'est pas un sujet tabou du tout. Mais malheureusement, l'environnement nous en parle jamais. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux que nos proches, notre famille, nos amis en parlent jamais. Les gens s'imaginent qu'il ne faut surtout pas en parler alors que c'est l'inverse. On a besoin d'entendre parler de lui, d'avoir des anecdotes qu'on a oubliées et qu'il nous rappelle. Et ne pas en entendre parler, c'est vraiment une souffrance.
Après le décès, je sais que la maîtresse a expliqué à la classe avant que je revienne. Donc je reviens et on n'en parle pas du tout. Et je rentre dans le moule, enfin, comme si de rien n'était, quoi. C'est pas quelque chose dont on va parler tranquillement à la cour de récré. J'en parle pas trop. Je me souviens que la fête des pères est arrivée cette même année. Et l'institutrice, pensant sûrement bien faire, a du coup annulé les activités de la fête des pères de cette année-là. Bah, à ce moment-là, oui, j'aimerais simplement être un peu dans la norme. Donc déjà, pas qu'une classe soit privée de quelque chose pour moi ou à cause de moi. Et peut-être que j'aurais pu faire quelque chose et l'offrir à quelqu'un d'autre, mes frères, voilà. Elle évite un peu la difficulté, elle évite un peu ce sujet-là. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre.
En mai, Emeline joue. Et elle nous joue une petite pièce. Et alors, le rôle qu'elle joue, c'est une maman très occupée, qui n'a pas le temps de parler à ses enfants, qui a beaucoup de travail et qui doit se dépêcher pour son travail. C'était à la fois très amusant et très critique. C'était une maman quand même qui n'avait pas de temps à perdre et qui n'avait pas non plus le temps forcément de jouer autant qu'elle aurait voulu avec ses enfants et qui avait bien d'autres impératifs. Et c'était à la fois, on a beaucoup ri, mais c'était parlant. Effectivement, j'étais débordée puisque je travaillais avec un métier de cadre quand même assez lourd. J'avais mes trois enfants, même si l'aîné commençait à partir. Et en plus, il fallait que je sois seule pour tout assumer, tous les problèmes de la maison, et puis l'éducation des enfants, et puis le suivi hospitalier de mes fils. Donc j'étais débordée, et c'était lourd psychologiquement.
Être speed, je pense que ça l'énerve que je ne le sois pas, donc ça commence déjà un peu à créer des tensions et des... En fait, c'était plus la question, je pense, de passer du temps ensemble, sans que le temps soit compté. Sans que je sente qu'il y a quelque chose derrière et que... voilà, sans s'inquiéter du temps, en fait.
Je suis quand même tiraillée tout le temps par le manque de temps et par le manque de temps que je peux leur donner, par l'insuffisance du temps que je leur donne. Ma vie était éclatée parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'impératifs. Et des lieux aussi de ressourcement différents, peut-être. Puisque moi, j'avais beaucoup besoin de prières, donc j'avais créé un groupe de prières. Et j'animais une chorale, parce que j'ai beaucoup besoin de chanter. Et c'était un peu mes seuls loisirs quand même. Hein. Et mes enfants me le reprochaient parce que ça tombait toujours mal. Ça tombait toujours quand ils avaient besoin de moi. Il fallait que je renonce donc à tous mes soifs intérieurs, spirituel, écriture, etc. Donc, je ne peux pas y renoncer complètement parce que j'ai besoin de me ressourcer et ma vie intérieure est une priorité. Et si je ne l'avais pas, je n'aurais certainement pas tenu. Donc, il faut jongler entre tout ça.
Donc, je pense qu'au milieu de tout ça, peut-être que la petite fille de 6 ans qui fait son deuil ou pas son deuil, bon, voilà quoi. C'est pas forcément au sommet de la liste. Des inquiétudes.
À ce moment-là, pour moi, c'est très lourd et les enfants ne s'en rendent pas compte parce que mon deuil est très lourd. C'est vraiment ma moitié que j'ai perdue et c'est extrêmement douloureux. Je me sens amputée. Les enfants sont dans leur deuil qui est différent, mais ils sont portés par moi et c'est moi qui les porte. Donc c'est différent et c'est la difficulté pour moi. J'ai pas le temps, je suis prise un peu dans un tourbillon. Du coup, je passe peut-être à côté de leurs propres ressentis au quotidien.
Plus jeune, je pense que ça a un effet un peu de balancier où si je vois mes proches très tristes, je vais pas forcément rajouter une couche. Parce que j'ai pas vraiment la place, c'est trop. c'est trop. Et en plus, être triste moi-même, ça veut dire rajouter de la tristesse sur les autres.
Emeline, effectivement, n'exprime rien. Et puis, elle est quand même assez difficile. Hein. Elle a un caractère très fort et j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, on me conseille, alors peut-être à l'école, j'en sais rien, de la faire voir par des psychothérapeutes spécialisés dans les enfants. On en a vu 3 différents, elle n'a jamais dit un mot.
Bon, déjà, c'était des parfaits étrangers, donc bon, c'est pas facile de parler à un parfait étranger. Et puis, c'est assez lourd, en fait, comme processus, quand même. C'est presque intrusif, un peu, parce que si on n'est pas prêt à parler, ça ne va pas venir comme ça. Hein. Non, mais peut-être simplement des choses toutes simples, d'en parler en famille, tranquillement. Quelque chose rappelle quelque chose, un souvenir, on en parle. C'est peut-être tout à fait suffisant. Et un psy, ça n'a pas le réconfort que peut apporter une famille. En tout cas, quelque chose de proche de moi et de rassurant et d'assez protecteur. Petit à petit, oui, à l'école, j'en parle de moins en moins et j'en parle plus parce que ça finit par me mettre moi-même mal à l'aise.
Ma relation avec Emeline, elle poursuit sa route de la même façon. Hein. J'ai des moments de désespoir parce que j'ai l'impression de ne pas y arriver, de ne pas arriver à l'éduquer correctement, à lui donner la sécurité affective. Et donc, y a des moments de désespoir qu'elle voit. C'est compliqué. Et c'est probablement qu'elle exprime sa souffrance comme ça aussi, en étant plus difficile.
Moi, j'ai pas mal de difficultés sur des sujets qui étaient pour elle à l'école très faciles.
Et donc, je lui fais faire ses devoirs. C'est très laborieux. Souvent, elle y va à reculons.
J'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'ai fait assez vite des problèmes de dyslexie, etc. Et donc, ça l'énerve beaucoup.
Et alors, je lui dis, mais je vais te faire dans un cahier qu'on a acheté, je vais te faire faire des lignes de tu écriras maman, papa, jambes, enfin, comme tout le monde l'a fait. Et il n'y a rien à faire, elle ne le fera pas. Elle a décidé qu'elle ne le fera pas, elle ne le fera pas.
Et finit par me sortir que vraiment, j'ai une écriture d'analphabète. Et comme j'étais déjà assez complexée et que j'avais déjà suffisamment entendu que j'avais pas une belle écriture, je me dis que c'est trop, quoi. C'est un peu... là, c'est trop. Ça me vexe et donc avec le temps, ça devient de plus en plus difficile.
Je suis seule avec Emeline quand elle a 11 ans. C'est pas facile. Je pense qu'elle souffre, elle en souffre de ça.
Six ans après le décès de mon père, je rentre au collège. Ça va de pire en pire. C'est de plus en plus difficile parce que je grandis aussi et qu'il y a beaucoup de choses que j'accepte pas et qui deviennent vraiment impossibles pour moi. Et j'étouffe à la maison et c'est difficile. Et à ce moment-là, on est seul aussi à la maison. Mes deux frères sont partis. Donc on est un peu en vase clos et c'est assez, dur et c'est assez... conflictuel, rien n'est simple, quoi. Ouais, non, c'est pas génial. C'est une période où vraiment, vraiment, j'ai hâte de sortir de là et j'ai hâte d'avoir 18 ans et j'ai hâte de faire autre chose, de voir autre chose et de sortir de là.
On parle pas du deuil, mais ça nous arrive de parler de papa. Enfin, mon mari est toujours là et son absence est toujours là. Je vais voir une psychologue qu'on m'a conseillée. Un jour, tout en parlant, elle me dit « Oui, effectivement, les enfants qui ont perdu un des deux parents, finalement, ils sont plus malheureux que s'ils perdent les deux, parce que quand ils perdent les deux parents, ils sont adoptés par une famille équilibrée qui n'est pas dans le deuil et qui va pouvoir les éduquer de façon plus sereine. » Et du coup, c'est effectivement, ça m'a un peu assommée. Et je me dis qu'ils auraient peut-être été plus heureux, effectivement, si j'étais décédée, s'ils avaient été élevés ailleurs. Je pars avec ça sur moi, quoi. Hein. Et je le garde, finalement. Je le rejette pas, je le garde. Hein. Je le prends comme argent comptant. Mais ça a créé justement une incompréhension totale entre Emeline et moi. Emeline, agressive parce qu'elle avait besoin de moi, et moi, lui répondant, il vaudrait mieux pour toi que je ne sois plus là. Donc, on était complètement incapables de se comprendre sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je répondais à son besoin en ajoutant encore de l'absence à l'absence. Et je n'en avais absolument pas conscience. Elle me demande, je crois que c'est à l'âge de 13 ans, de partir en pension. Donc, elle y passe un an.
Et plus tard, j'ai pris un studio. Enfin, ma mère m'a pris un studio puisque j'étais encore dépendante d'elle financièrement à ce moment-là. Parce que je suis quand même assez jeune encore, je suis au lycée. Donc, j'alterne un peu entre... c'est trop difficile, ça va pas à la maison, j'y vais. Et en même temps, là-bas, ben, je suis quand même assez jeune et assez seule pour être... assez jeune pour être aussi seule. Je parle un petit peu plus du décès à ce moment-là. C'est vrai que les gens de ma classe sont au courant. Mais après, les questions du deuil ne sont pas non plus d'actualité à ce moment-là.
En 2012, c'était 11 ans après le décès de mon mari.
Quand je termine à ce moment-là le lycée à 18 ans, le plus jeune de mes frères revient d'un voyage en Amérique latine un peu bizarre. Et donc, il fait un examen et on lui découvre une tumeur au cerveau.
On a découvert ça le 21 décembre. On devait fêter l'anniversaire du frère aîné. Et du coup, il a été opéré début janvier. Et ça a donné suite à une longue période de chimiothérapie et de radiothérapie qui est arrivée jusqu'à l'été.
Et c'est vrai que là, c'est un peu le premier épisode médical où je suis vraiment présente. Là, pour le coup, c'est normal que je sois là.
Pour tous les autres épisodes de hospitalier de son frère, elle avait été tenue à l'écart aussi. Hein. Et alors cette fois-ci, donc en 2012, son frère est opéré et Emeline veut absolument aller le voir en salle de réveil. Et je ne veux pas parce que j'ai souvenir d'avoir été complètement démolie, moi, quand j'ai vu mon mari en salle de réveil plusieurs fois. Ça m'a énormément touchée. Et donc, je ne veux pas lui infliger cette chose-là. Objectivement, si ma mère avait pu me protéger de ce genre de choses, je lui en aurais été reconnaissante. J'insiste pour qu'elle ne vienne pas, et elle insiste pour venir.
À ce moment-là, ça me met plus en colère, et bon, bah, j'y vais, et voilà. Et là, vraiment, je comprends le décalage qu'il y a entre moi et les autres, entre guillemets, entre mon ressenti et la compréhension que les gens ont de moi. Enfin, j'ai grandi là-dedans, donc... Donc, aller voir mon frère en salle de réveil après une opération, c'est pas quelque chose de dramatique qui va me traumatiser. Et je vois bien que là, on se heurte à quelque chose qui est vraiment... vraiment, ça passe pas du tout. Vraiment, elle comprend pas. Et c'est vrai que je mesure à ce moment-là à quel point on s'est pas vraiment rendu compte que j'étais plongée là-dedans aussi. Et oui, et c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai recommencé un peu à rêver de mon père, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et comme j'ai peu de souvenirs, j'ai pas vu vraiment son visage, j'ai pas vu sa personne, mais j'ai vraiment senti sa présence. Et voilà, donc bien sûr, une présence très rassurante et enveloppante. Et j'étais mieux le lendemain matin. Donc, quand je termine le lycée, je décide de partir. Donc, j'ai 18 ans à ce moment-là. Je décide de partir un an en Australie parce que... Ben, en fait, vraiment, ça me vient naturellement. Bon, de toute façon, j'ai toujours eu envie un petit peu de partir. Et je pense que j'avais besoin de sortir de tout ça un bon coup. Peut-être de me construire moi-même, avec moi-même, en quelque sorte. « Le retour d'Australie, ça a été un peu difficile. Vraiment, là, je suis adulte. Et à la maison, je ne peux plus être traitée comme une enfant. Et il y a beaucoup de choses que je n'accepte plus. Et donc là, il faut, de toute façon, il faut partir. Et de toute façon, je n'ai pas du tout envisagé une seconde de rester, de revenir chez ma mère à cette période-là. Alors, les choses s'apaisent entre nous. Quand je prends vraiment mon indépendance et que il y a vraiment des choses que je verbalise aussi. Je lui demande d'avoir une relation d'adulte à adulte et je lui demande vraiment de... J'exprime vraiment le souhait d'avoir une relation avec elle, mais que ça ne peut pas être le type de relation qu'on avait quand j'étais enfant parce que c'est pas vivable et c'est pas ce que je souhaite. Quand je lui en parle, sur le coup, elle comprend ce que je veux dire. Après, bon, entre comprendre et lâcher des mécanismes ancrés depuis des décennies, depuis des années, y a quand même un sacré pas.
En 2020, elle a 25 ans et donc c'est 19 ans après le décès de son père.
Je rentre d'un autre voyage en Australie à ce moment-là et donc je me retrouve seule chez moi, dans mon appartement.
Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle vienne faire le confinement chez moi, parce que j'ai une grande maison confortable, qu'elle est dans un petit appartement. Je l'appelle et je lui dis « mais tu vas venir à la maison hein. ».
Et je lui fais comprendre que j'ai pas vraiment envie. Et c'est vrai que je m'imagine mal passer le confinement chez elle.
Et donc, je suis très déçue. Je mets un certain temps à accepter qu'elle ait envie de rester seule chez elle. Seule chez elle.
De nouveau, c'est trop pour moi, je raccroche. Et par contre, cette fois, c'est vrai que je suis assez en colère et assez blessée de nouveau. Là, je prends la décision de faire une pause. De faire une pause avec ma mère. Et j'ai quand même un grand sentiment de solitude. Parce que bon, c'est le seul parent que j'ai et que c'est quand même un peu douloureux d'être en conflit. Voilà. Et là, je commence un peu à chercher sur Internet le deuil chez les enfants, etc. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe aussi? Est-ce qu'on sait ce qui se passe chez les enfants? Et n'ayant pas trop de souvenirs, éventuellement, qu'est-ce qui se serait passé chez moi aussi? Et j'apprends, par exemple, qu'effectivement, c'est très courant. Donc, on parle d'un enfant par classe à l'âge du lycée, par exemple. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment très courant. J'apprends qu'on peut observer des réactions après le décès d'un parent, même chez des nourrissons. Et donc, je me suis penchée là-dessus et je me suis un peu plongée là-dedans. Et ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Parce qu'il y a peut-être des choses un peu qui s'expliquent, parce que c'est intéressant. Et du coup, il y a quelque chose qui se fait aussi un peu en moi, où je suis un peu plus à l'aise et je peux regarder ça avec peut-être un peu moins de tristesse aussi. Enfin, toujours avec de la tristesse, mais un peu moins de... sans être totalement embarquée et chamboulée. Et voilà, et je comprends que bon, ça prend du temps. 20 ans plus tard, bon, s'il faut 20 ans, il faut 20 ans, quoi.
Ça m'a réjouie qu'elle ait pu faire ce chemin parce que on m'avait bien dit que les enfants ne pouvaient pas faire leur deuil enfant. Et que les choses commencent à remonter, à être douloureuses, mais qu'elle commence à les analyser. Je pense que c'était nécessaire. Et qu'elle ait pu y voir plus clair grâce à ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose.
Je voulais un peu me débarrasser de tous ces complexes et de tous ces... C'est vraiment, vraiment, je suis très mal à l'aise à l'écrit. Comme ma mère m'avait beaucoup critiquée plus jeune, c'était un peu la thérapie ultime. Et je me disais un peu, il faut que je me force un peu à sortir de ça, parce que bon, je ne peux pas avoir non plus peur du regard de ma mère toute ma vie. Donc elle m'a fait faire une dictée. Bien sûr, elle dictait trop vite, donc j'ai pu lui dire de ralentir. Bien sûr, elle a commencé à râler, j'ai pu lui dire en rigolant un peu que bon. Donc la dictée se passe bien.
Maintenant, pour moi, il n'y a plus d'enjeu. Avant, il y avait l'enjeu que ma fille ne soit pas en difficulté scolaire. Ça répare quelque chose qui a été difficile. Si elle est plus bloquée avec moi sur ce sujet, c'est énorme.
Bon, d'avoir fait mon propre chemin de mon côté, d'avoir compris beaucoup de choses, Ouais, je l'ai mieux comprise, j'ai mieux compris un peu la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. J'ai mieux compris aussi la solitude dans laquelle elle s'est retrouvée. Donc oui, ça aussi, ça apaise les choses.
Elle grandit, et en grandissant, j'espère... Bon, moi, je découvre des choses grâce à elle, et j'espère que nous nous rapprocherons de plus en plus.
La question du deuil en soi, ça reste quand même assez, assez flou. Après, j'y pense de temps en temps, et je me... Bon, j'y trouve encore beaucoup de tristesse, forcément. Mais c'est je sais pas vraiment si on peut dire ça, mais c'est presque une tristesse normale, entre guillemets. C'est plus une tristesse... vraiment de mal-être, de quelque chose de... Cette boule vraiment à la gorge, etc. C'est une tristesse de la perte d'un être cher et qui, bon, bah, fatalement...
Bon, je pense que toutes les deux, on est quand même des âmes proches. Hein. On est proches avec mes enfants, les trois. Même s'il y a des tensions, on est quand même... On a une proximité d'âme. Le deuil nous a tous façonnés, oui.
C'était un peu un non-sujet, presque. Et une fois adulte, par contre, voilà, on en parle un petit peu plus. Et surtout, on échange plus de souvenirs. Enfin, elle me raconte plus de choses, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs à échanger, mais elle me raconte plus de choses. Et donc, ça participe un peu à m'aider à connaître un peu ce père qui est bon, bah, très proche, puisque c'est mon père, mais inconnu un peu.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par la journaliste Marjolaine Roget. La musique est de Charles de Cilia, la réalisation de Lucille Haussel et le mix de Jean-Baptiste Bonnet. Maud Benakcha est la chargée de production de Passage. Maureen Wilson, Anaïs Dupuis et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismedia.com/club. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.